physiologie du goût, variété 9. Le turbo. La discorde avait tenté un jour de s'introduire dans le sein d'un des ménages les plus unis de la capitale. C'était justement un samedi, jour de sabbat. Il s'agissait d'un turbo à cuire, c'était à la campagne, et cette campagne était Villecresne. Ce poisson, qu'on disait arraché à une destinée bien plus glorieuse, devait être servi le lendemain à une réunion de bonnes gens dont je faisais partie. Il était frais, dodu, brillant à satisfaction, mais ses dimensions excédaient tellement tous les vases dont on pouvait disposer qu'on ne savait comment le préparer. « Eh bien, on le partagera en deux, » disait le mari. « Oserais-tu bien déshonorer ainsi cette pauvre créature ?» disait la femme. « Il le faut bien, ma chère, puisqu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Allons, qu'on apporte le couperet, et bientôt ce sera chose faite. »«
Attendons encore, mon ami. On y sera toujours à temps. Tu sais bien d'ailleurs que le cousin va venir, c'est un professeur, et il trouvera bien le moyen de nous tirer d'affaire. »«
Un professeur ? Nous tirer d'affaire ? Bah !»
Et un rapport fidèle assure que celui qui parlait ainsi ne paraissait pas avoir grande confiance au professeur. Et cependant, ce professeur, c'était moi.
Schwernot.
La difficulté allait probablement se terminer à la manière d'Alexandre. Lorsque j'arrivais au pas de charge, le nez au vent, et avec l'appétit qu'on a toujours quand on a voyagé, qu'il est 7 heures du soir, et que l'odeur d'un bon dîner salue l'odorat et sollicite le goût. À mon entrée, je tentais vainement de faire les compliments d'usage. On ne me répondit point, parce qu'on ne m'avait pas écouté. Bientôt, la question qui absorbait toutes les attentions me fut exposée à peu près en duo. Après quoi, les deux parties se turent comme de concert. La cousine, me regardant avec des yeux qui semblaient dire « J'espère que nous nous en tirerons », le cousin ayant au contraire l'air moqueur et narquois, comme s'il eût été sûr que je ne m'en tirerais pas, tandis que sa main droite était appuyée sur le redoutable couperet qu'on avait apporté sur sa réquisition. Ces nuances diverses disparurent pour faire place à l'empreinte d'une vive curiosité lorsque, d'une voix grave et oraculeuse, je prononçai ces paroles solennelles. Le turbo restera entier jusqu'à sa présentation officielle. Déjà, j'étais sûr de ne pas me compromettre parce que j'aurais proposé de le faire cuire au four. Mais ce mode pouvant présenter quelques difficultés, je ne m'expliquais point encore et me dirigeais en silence vers la cuisine, moi ouvrant la procession, les épouses servant d'acolytes, la famille représentant les fidèles, et la cuisinière, Infiocchi, fermant la marche. Les deux premières pièces ne me présentèrent rien de favorable à mes vues. Mais arrivé à la buanderie, une chaudière, quoique petite, bien encastrée dans son fourneau, s'offrit à mes yeux. J'en jugeai de suite l'application, et me tournant vers ma suite, « Soyez sans inquiétude, » m'écriai-je avec cette foi qui transporte les montagnes. « Le turbo cuira entier. Il cuira à la vapeur. Il va cuire à l'instant. » Effectivement, quoiqu'il fût tout à fait temps de dîner, je mis immédiatement tout le monde en œuvre. Pendant que quelques-uns allumaient le fourneau, je taillai, dans un panier de 50 bouteilles, une clé de la grandeur précise du poisson géant. Sur cette clé, je fis mettre un lit de bulbes et herbes de haut goût, sur lequel il fut étendu, après avoir été bien lavé, bien séché et convenablement salé. Un second lit du même assaisonnement fut placé sur le dos. On posa la clé, ainsi chargée, sur la chaudière à demi pleine d'eau,
on couvrit le dos d'un petit cuvier autour duquel on amassa du sable sec pour empêcher la vapeur de s'échapper trop facilement. Bientôt, la chaudière fut en ébullition. La vapeur ne tarda pas à remplir toute la capacité du cuvier qu'on enleva au bout d'une demi-heure, et la clé fut retirée de dessus la chaudière avec le turbo cuit à point, bien blanc et de la plus aimable apparence. L'opération finie, nous courûmes nous mettre à table avec des appétits aiguisés par le retard, par le travail et par le succès, de sorte que nous employâmes assez de temps pour arriver à ce moment heureux, toujours indiqué par Homer, où l'abondance et la variété des mets avaient chassé la faim. Le lendemain, à dîner, le turbo fut servi aux honorables consommateurs et on se récria sur sa bonne mine. Alors, le maître de la maison rapporta par lui-même la manière inespérée dont il avait été cuit. Et je fus loué non seulement pour l'à-propos de l'invention, mais encore pour son effet. Car, après une dégustation attentive, il fut décidé à l'unanimité que le poisson apprêté de cette manière était incomparablement meilleur que s'il eût été cuit dans une turbotière. Cette décision n'étonna personne, puisque, n'ayant pas passé dans l'eau bouillante, il n'avait rien perdu de ses principes, et avait au contraire pompé tout l'arôme de l'assaisonnement. Pendant que mon oreille se saturait à satisfaction des compliments qui m'étaient prodigués, mes yeux en cherchaient encore d'autres plus sincères dans l'autopsie des convives. Et j'observais, avec un contentement secret, que le général Labassé était si content qu'il souriait à chaque morceau, que le curé avait le cou tendu et les yeux fixés au plafond en signe d'extase, et que, de deux académiciens aussi spirituels que gourmands qui se trouvaient parmi nous, le premier, M. Auger, avait les yeux brillants et la face radieuse comme un auteur qu'on applaudit, tandis que le deuxième, M. Villemin, avait la tête penchée et le menton à l'ouest, comme quelqu'un qui écoute avec attention. Tout ceci est bon à retenir, parce qu'il est peu de maisons de campagne où l'on ne puisse trouver tout ce qui est nécessaire pour constituer l'appareil dont je me servis dans cette occasion, et qu'on peut y avoir recours toutes les fois qu'il est question de faire cuire quelque objet qui survient inopinément et qui dépasse les dimensions ordinaires. Cependant, mes lecteurs auraient été privés de la connaissance de cette grande aventure si elle ne m'avait pas paru devoir conduire à des résultats d'une utilité plus générale. Effectivement, ceux qui connaissent la nature et les effets de la vapeur savent qu'elle égale en température le liquide qu'elle abandonne, qu'elle peut même s'élever de quelques degrés par une légère concentration et qu'elle s'accumule tant qu'elle ne trouve pas d'issue. Il suit de là que, toutes choses restant les mêmes, en augmentant seulement la capacité du cuvier qui couvrait le tout dans mon expérience, et en y substituant par exemple un tonneau vide, on pourrait, au moyen de la vapeur, faire cuire promptement et à peu de frais plusieurs boisseaux de pommes de terre, des racines de toute espèce, enfin tout ce qu'on aurait empilé sur la claie et recouvert du tonneau, soit pour les hommes, soit à l'usage des bestiaux. Et tout cela serait cuit avec 6 fois moins de temps et 6 fois moins de bois qu'il n'en faudrait pour mettre seulement en ébullition une chaudière de la contenance d'un hectolitre. Je crois que cet appareil si simple peut être de quelque importance partout où il existe une manutention un peu considérable, soit à la ville, soit à la campagne. Et voilà pourquoi je l'ai décrit de manière que tout le monde puisse l'entendre et en profiter. Je crois encore qu'on n'a point assez tourné au profit de nos usages domestiques la puissance de la vapeur. Et j'espère bien que, quelque jour, le bulletin de la Société d'encouragement apprendra aux agriculteurs que je m'en suis ultérieurement occupé. Post-scriptum. Un jour que nous étions assemblés en comité de professeurs rue de la Paix, numéro 14, je racontais l'histoire véritable du turbo à la vapeur. Quand j'eus fini, mon voisin de gauche se tourna vers moi. « N'y étais-je donc pas ?» me dit-il d'un air de reproche. « Et moi donc, n'ai-je donc pas opiné tout aussi bien que les autres ?»«
Certainement, lui répondis-je, vous étiez là tout près du curé. Et sans reproche, vous en avez bien pris votre part. Ne croyez pas que... »
Le réclamant était M. Lorrain, dégustateur fortement papillé, financier aussi aimable que prudent, qui sait bien caler dans le port pour juger plus sainement des effets de la tempête, et conséquemment digne à plus d'un titre de la nomination en toutes lettres.